Régis.
Oui, merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez rappelé à l'instant, le déploiement de la fibre en France tourne à plein régime et les chiffres de l'année 2018 le démontrent de manière tout à fait évidente. Donc je vais vous citer un nombre limité de chiffres. Le premier, c'est le volume total de prises qui ont été livrées au cours de l'année 2018, 3 220 000. C'est juste trois fois plus qu'en 2014. Ça veut dire que le parc installé France entière, il a augmenté de 31%. Et si on focus plus spécifiquement sur la zone d'initiative publique, il y a eu 630 000 prises de livrée et ça représente une augmentation du parc installé de 51%. Tous ces chiffres surpassent les indicateurs que nous, on avait envisagés, qui étaient déjà assez dynamiques. Et donc, on peut estimer que, globalement, le bilan de l'année 2018 est, de ce point de vue, très satisfaisant. Pour votre information, nous ne pensons pas, même si c'est certainement optimiste et volontariste, nous pensons qu'il est possible d'arriver, pour 2019, à 3,5 millions ou 3,6 millions prises France entière, et de l'ordre de 750 à 800, peut-être un peu plus, 1000 de prises en zone d'initiative publique, ce qui permettrait une augmentation supplémentaire de la base installée. Ce sont des chiffres qui sont effectivement qui supposent une mobilisation encore supérieure de l'outil industriel. Ça suppose en particulier un bon reclassement, je dirais, des forces industrielles et qui ont été ces dernières années mobilisés sur les zones très denses, qui sont aujourd'hui quasiment entièrement développées, vers des zones moins denses. Donc ça renvoie à des stratégies d'entreprise qui ne sont pas forcément évidentes à maîtriser. Je pense que nos amis ici présents auront des choses à dire à cet égard. Mais on s'attend en tout cas à une année 2019 significativement supérieure à celle de l'année 2018. Au niveau territorial, ben évidemment, le chiffre national n'est que l'addition des données de l'ensemble des territoires. Comme vous le savez, nous, on travaille essentiellement au niveau du département, même si un certain nombre de projets sont pluridépartementaux. Aujourd'hui, si on considère donc les réseaux d'initiatives publiques, dans 8 départements, le taux de couverture est supérieur à 30%, c'est-à-dire plus de 30% des prises de la zone d'initiative publique sont aujourd'hui livrées. Je suis heureux de dire que le Calvados fait partie de ces 8 départements. Je les cite parce que on met parfois l'accent sur les soucis ou les difficultés, mais je pense que c'est bien de citer aussi ceux qui marchent bien. Et dans l'ordre, je dirais, de niveau de taux de couverture, l'Oise, qui sera donc le premier à achever, sans doute en 2020, la couverture totale de la zone d'initiative publique, la Loire, l'Aisne, l'Ain, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Haute-Loire et le Calvados. Alors beaucoup de ces départements sont des projets assez pionniers qui ont été démarrés relativement tôt. Ce qui est tout à fait frappant quand on regarde les statistiques de 2018, c'est qu'on voit parallèlement ou simultanément l'émergence dans les prises nouvellement livrées des grands DSP concessifs qui ont été signés dans les années 2016 et 2017, donc qui commencent à produire à plein régime, notamment l'Alsace et notamment Nord-Pas-de-Calais. Le point qui reste, je dirais, un petit peu moins satisfaisant, c'est qu'il y a une grande inégalité dans le niveau de déploiement ou niveau de livraison et de couverture de la zone d'initiative publique. Et c'est vrai qu'à fin 2018, un certain nombre de territoires n'ont pas commencé de livrer les prises. Ce n'est pas nécessairement inquiétant pour les contractualisations récentes. Ça peut l'être un peu davantage pour des contractualisations qui sont déjà un peu plus anciennes et pour lesquelles on peut estimer que ça reflète une certaine difficulté, je dirais, à enclencher, non pas la marche avant, parce que la marche avant est enclenchée, mais en tout cas à arriver à produire et à passer la phase étude. Alors, si on abandonne maintenant ce regard très court terme pour se positionner au regard des objectifs présidentiels, vous savez qu'il y a un horizon à 2020, un horizon à 2022. Je rappelle que la réalisation du bon débit à 2020, 8 mégabits pour tous, et du très haut débit, 30 mégabits pour tous en 2022, repose en toute hypothèse sur des mix de technologies. Donc on ne parle pas de... Là, on sort de, strictement de ce qui est fibre optique, même si la fibre optique occupe une place dominante. Bon, nous sommes aujourd'hui, sur la base des chiffres, nous disposons très très confiance sur la réalisation partout en France des objectifs 2020, et notamment parce que il y a aujourd'hui une émergence importante de nouvelles solutions hertziennes qui vont permettre de venir apporter des solutions aux environ 6% de locaux qui n'auraient pas autrement que par des solutions hertziennes accès à du bon haut débit à cet horizon. En ce qui concerne 2022, je dirais que c'est plus loin, donc forcément la perspective est un tout petit peu plus floue et un peu plus incertaine. Ce qu'on constate, c'est que si on évoque les solutions hertziennes, aujourd'hui la seule solution hertzienne qui passe le 30 mégas en 2000 de manière certaine, c'est le THD radio. Les autres ne sont pas officiellement qualifiés comme très haut débit, ce qui renvoie donc à la question de qu'est-ce qu'il va y avoir comme évolution technique. Est-ce que ces solutions passeront d'ici 2022 en très haut débit, parce qu'on aura besoin, là aussi en 2022, pour réaliser le très haut débit pour tous, d'un mix technologique, à peu près 80% de fibres, à peu près entre 12 et 15% d'ADSL grâce aux très nombreuses montées en débit qui ont été faites, et puis une marge de 5 à 6% de locaux qui auront besoin de solutions hertziennes très haut débit. Je rappelle qu'en 2021, EUTELSAT envoie au-dessus de nos têtes, un peu loin, à 36 000 km, un satellite qui sera en capacité, une fois mis installé, de proposer des offres à très haut débit, notamment aux locaux les plus isolés. Pourquoi j'ai commencé ce point sur le hertzien ? Parce que on voit bien que globalement, on y sera, et que l'effort, il doit porter sur justement ces locaux plus marginaux, un peu difficiles à atteindre. Il est nécessaire que dans chaque territoire, cette proportion ne soit pas excessif, parce que le hertzien, c'est une solution qui, par définition, ne peut concerner qu'une minorité de consommateurs. Ça ne peut pas concerner une majorité de consommateurs. Et donc, il est important que le niveau d'atteinte du 30 mégabits, et notamment en FTTH, soit suffisamment élevé dans chaque territoire. Nous avons progressivement réorienté ces dernières semaines et ces derniers mois, et nous continuerons de le faire, notre travail, c'est-à-dire que notre accompagnement des collectivités, que vous connaissez pour ceux d'entre vous qui le pratiquent, il se fera de plus en plus sur la mise en œuvre, et évidemment moins sur la conception et la structuration du projet qui est désormais derrière nous. Dernier point, je voudrais rappeler que nous travaillons sur une enveloppe budgétaire qui est aujourd'hui saturée. Les 3,3 milliards qui avaient été initialement alloués au plan France Très Haut Débit sont aujourd'hui en totalité ou à 99,quelques% utilisés, principalement pour les réseaux d'initiatives publiques, pour le guichet cohésion dont on parlera tout à l'heure, et je préfère parler de dispositif cohésion parce qu'il n'y a pas réellement de guichet. Et puis également à hauteur d'une cinquantaine de millions par un dispositif qui s'appelle la continuité territoriale numérique, qui s'applique aux territoires d'outre-mer et qui leur permet de relever le niveau de service pour ces populations qui, elles aussi, sont tout à fait pleinement en droit d'attendre la réalisation à 2020 et à 2022 des objectifs présidentiels. Ce qui veut dire que nous avons pris beaucoup de décisions, proposé au Premier ministre beaucoup de décisions financières en 2018, mais elles portaient plutôt sur des décisions de financement, c'est-à-dire la confirmation d'engagements de principe qui avaient été pris antérieurement. Il s'agissait d'arrêter de manière définitive le plan de financement d'un certain nombre de projets pour lesquels nous avions déjà fléché antérieurement des budgets parfois très importants. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'on reviendra pendant le débat sur la question des AMEL. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de questions sur le sujet.
On aura.
Voilà. Et donc, je laisse la parole aux prochains intervenants.
Merci beaucoup. Moi, j'avais une question quand vous parlez effectivement de la fermeture du guichet. Donc, on sait que le guichet est fermé jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il réouvrira ? J'ai peut-être une question idiote, mais vous parlez de 3,3 milliards d'euros. Le plan, il était estimé à 22 milliards d'euros en 2013 à son lancement. divisé par 3, opérateurs, collectivités, État. Donc si je compte bien, ça fait environ 7,3 milliards par acteur. Donc est-ce qu'il va y avoir un abondement si vous... il y a déjà 3 milliards 3 qui ont été fléchés, c'est-à-dire dans ma tête il manque 4 milliards, mais c'est peut-être idiot comme calcul.
Moi je répondrais par deux manières. Est-ce que nous sommes en capacité d'atteindre les objectifs présidentiels 2022 sans abondement supplémentaire de l'enveloppe? La réponse est oui. D'accord. Est-ce que ce sera plus facile de le faire si nous avons une enveloppe supplémentaire? La réponse est également oui.
Ok, donc la question reste sur la table. Cyril Leneau, vous avez été interpellé tout à l'heure par David Revers sur la question de cette fameuse question de l'arrivée des OSEN. Voilà, est-ce que vous avez un peu d'infos là-dessus? Je crois qu'il y a eu il y a des bruits qui ont couru, il y a eu des déclarations officielles. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour nous, Cyril?
Tu veux que je commence par ça?
J'aimerais. ça fait quelques années qu'on t'embête avec ça.
Oui, oui. Alors, il se trouve que régulièrement, la FOUC qu'on lui connaît, Philippe Augier, nous interpelle tous les ans, donc à peu près à la même époque, en disant mais bon, que se passe-t-il? Bon, il n'y a pas que lui, je vois M. Collin qui est là, évidemment, que ce soit Jean-Léonce Dupont, évidemment, et puis la région aussi nous interpelle sur ces sujets-là. Fin du suspense, oui, en effet, Orange vient massivement sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques et pas que les réseaux d'initiatives publiques qui sont opérés par Orange, c'est-à-dire tous les réseaux. Donc c'est une décision qui a été donc annoncée hier. Alors pourquoi hier? C'est parce que sans doute il y avait un événement aujourd'hui à Deauville. Donc on a essayé de faire matcher les deux. Et donc,
on vous en remercie.
Et bien sûr. Et on a le plaisir, la joie de vous annoncer en effet que Orange va massivement sur l'ensemble des réseaux, quels qu'ils soient. Et voilà. Donc c'est une super bonne nouvelle. On est très heureux, y compris pour nos clients, parce qu'ils attendent évidemment qu'on puisse utiliser des supports qui sont plus efficients que le cuivre pour passer sur des services qui sont bien supérieurs. On a aujourd'hui un marché qui est stabilisé, avec des acteurs qui sont connus, reconnus. La promesse de la fibre doit être tenue et on sait qu'elle sera tenue. Et donc c'est pour ça que Orange s'est décidé à le faire. Alors certes, on avait un certain nombre de priorités jusqu'à présent et c'est pour ça que peut-être qu'on avait fléché l'ensemble de nos efforts sur le lancement de la ZTD, le lancement de la zone AMI. Aujourd'hui, on est dans une... on n'a pas une vitesse... une vitesse de croisière, on a une accélération de croisière en fait, parce qu'on continue tout le temps d'accélérer. Et on le disait tout à l'heure, Orange a mis en place donc un outil industriel très important pour déployer les réseaux, et ce qui nous permet de viser plus de 2,5 millions de prises sur 2019. Donc tu vois qu'on a vraiment ce souci, et le souci du jour et le souci de l'année et de l'année prochaine, ça sera évidemment le delivery, livrer ce que l'on a prévu de livrer. Et c'est tout l'enjeu justement de d'Orange et de son organisation, de toutes les équipes. Donc voilà un petit peu les sujets. Donc évidemment, vous comprenez bien qu'on ne va pas arriver du jour au lendemain, parce qu'il y a au-delà des négociations qui se passent très bien, donc on est en train de finaliser tout ça avec l'ensemble des acteurs. Il y a certains accords qui sont déjà totalement ficelés, et puis d'autres qui sont en train de se finaliser. On va venir massivement, ça veut dire que globalement, on estime qu'il y a à peu près... c'est comme un tapis roulant où nous on va beaucoup plus vite que le tapis roulant pour rattraper le retard, mais il y a encore le temps d'arriver, et bien on sera pas sur toutes les prises à la fin de l'année 2019, mais globalement on sera au moins sur 2 millions de prises, donc 2 millions de prises supplémentaires par rapport aux 550 000 prises sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va aller assez vite, et on est ravis de cela. Donc c'était quelque chose qui était attendu, Certes, nous avions la pression. Il faut savoir que Orange, dans ses contrées, dans les zones dites un peu plus rurales, eh bien, a une part de marché qui est importante, un certain nombre d'habitudes et de une qualité de service est attendue par par nos clients. Donc, c'est une très 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 bonne nouvelle pour eux. Et donc, on va mettre tous nos efforts pour faire en sorte de s'interfacer avec l'ensemble des SI, des opérateurs de réseau. On va faire tous nos efforts pour raccorder l'ensemble des centraux nécessaires pour pouvoir le faire. Et puis, s'organiser aussi pour délivrer derrière, parce que ce sont des équipes, évidemment, au-delà de... Au-delà des usines qui travaillent entre elles, il faut que l'ensemble des équipes de distribution, des équipes commerciales, toutes les agences, les boutiques, soient en mesure de bien conseiller les clients et de faire en sorte que les éligibilités, etc., fonctionnent bien. Et puis ensuite, la livraison des box et des raccordements, etc., pour pouvoir livrer tous ces clients. Donc on attend beaucoup. On attend beaucoup de cette nouvelle donne et on est tous très motivés et très heureux chez Orange de pouvoir participer à cet aménagement du territoire et à la couverture en service de tous les habitants. C'est vraiment essentiel pour nous en tant qu'opérateurs à la fois multi-service, multi-casquette et surtout opérateurs sur l'ensemble du territoire et quel que soit... que ce soit le grand public, que ce soit les entreprises et les collectivités, bien évidemment. Voilà. Donc, très heureux de pouvoir partager cette nouvelle avec vous aujourd'hui. Et bien évidemment, sur ce territoire, je pense que l'année prochaine, pour les états généraux des RIP à Deauville, on pourra compter des clients, évidemment... sur Deauville et la Côte Fleurie. Et également sur le Calvados, bien évidemment, monsieur le vice-président.
Voilà. Merci beaucoup Cyril. Merci pour cette bonne nouvelle. On a envie de dire que l'équipe est au complet finalement, hein, puisque aujourd'hui, effectivement, Orange arrive sur les RIP officiellement dans le cadre d'un calendrier. Lionel Recorbet, donc président de SFR FTTH, ex-SFR collectivité, mais qui prend finalement son indépendance, si je puis dire. Ça devient une business unit proprement parlée au sein de la galaxie Altis. Donc ça, c'est une première information. Et puis la deuxième, ensuite on demandera à Blandine. C'est vrai que vous arrivez tous les deux sur un réseau comme celui de Covage qui a fait un effort de réingénierie pour vous accueillir. Hein. Donc aujourd'hui, on en est où des déploiements de SFR? Quelle est la nouvelle donne à travers SFR FTTH? Et puis, comment ça va se passer justement sur ces réseaux sur lesquels tous les OSEN arrivent? Finalement, on voit que la ruralité est attractive, hein, pour nos opérateurs fournisseurs d'accès.
La ruralité est attractive et c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des opérateurs de RIP qu'Orange arrive sur les réseaux d'initiative publique. C'est un mouvement qu'on avait initié au niveau du groupe Altis et du groupe SFR depuis près de deux ans. Aujourd'hui, on a contractualisé avec la quasi-totalité des opérateurs de RIP. Enfin, la totalité des opérateurs de RIP. Il manque peut-être un ou deux RIP à proprement parler sur lesquels nous ne sommes pas présents ou sur lesquels nous n'allons pas être présents d'ici à la fin de l'année. Mais sur l'ensemble des réseaux d'initiative publique, aujourd'hui, le groupe Altis est présent en tant que fournisseur d'accès Internet et propose ses solutions à très haut débit, puisque au-delà de la couverture du groupe, puisque le groupe aujourd'hui a un patrimoine de près de 12,5 millions de foyers éligibles à l'offre fibre de SFR, on a, au travers de la nouvelle structure qu'on vient de créer, SFR FTTH, avec des partenaires, aujourd'hui, une entité qui est le bras armé, l'opérateur d'infrastructure pour déployer le très haut débit, le FTTH en France, puisque près de 5 millions de logements seront raccordables au travers de cette nouvelle entité, que ce soit les déploiements qui ont lieu en zone moyennement dense ou les déploiements qui ont lieu dans le cadre des réseaux d'initiative publique. Donc on a vraiment une structure et une force de frappe qui s'est organisée, qui s'est mise en œuvre pour pouvoir assurer l'ensemble de ces déploiements, aussi bien sur la partie financement, aussi bien sur la partie ressources humaines, aussi bien sur la partie gestion de la sous-traitance. Le groupe Altis à cette capacité. Et c'est vrai qu'on parle souvent des difficultés de ressources humaines sur la sous-traitance. Le groupe Altis a la capacité d'avoir internalisé une grande partie de sa sous-traitance et donc n'est pas dépendant d'une sous-traitance qui est effectivement très tendue. Mais effectivement, on est sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques de l'ensemble des opérateurs et notre objectif est d'être partout présent et le plus rapidement possible. Et c'est peut-être aussi, au-delà de la pression politique qu'il a pu y avoir sur Orange pour qu'il soit présent sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques, c'est peut-être aussi une raison de cette accélération de l'opérateur historique qui fait qu'aujourd'hui, des parts de marché sont captées par un opérateur comme SFR, puisque on est à plus de 30 000 clients sur les réseaux de Covage, d'Action et d'Altitude aujourd'hui. Voilà, c'est une réalité. Il y a eu des mots, il y a eu effectivement des communiqués de presse qui sont parus par d'autres opérateurs qui ont dit qu'ils allaient être présents sur l'ensemble des RIP, etc. C'est une réalité pour SFR aujourd'hui. Plus de 30 000 clients sont installés dans les réseaux d'initiatives publiques. On a ouvert la plaque de Bayeux, Monsieur Collin le soulignait, et on a déjà plusieurs centaines de clients sur Bayeux qui sont installés. Donc voilà, on est dans cette logique où le groupe a cette volonté d'être présent sur l'ensemble des infrastructures à très haut débit. Ça fait partie de la stratégie du groupe Altis, à la fois d'être présent sur les infrastructures à très haut débit fixe, d'être présent sur les infrastructures et de déployer les infrastructures à très haut débit mobile, dans le souci majeur d'apporter aux abonnés, à nos clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, le meilleur des services. Le meilleur des services, et donc ça passe par la 4G, la 4G+, ça passe aussi par la fibre et la convergence des supports, que ce soit des télécoms ou des médias. Donc on est vraiment dans cette stratégie qui se décline depuis plusieurs années, qui est constante. Je pense que ça fait plusieurs états généraux des RIP sur lesquels je suis présent, et on a toujours affiché cette stratégie volontariste d'avoir cette notion de convergence fixe, mobile et contenu, stratégie de continuer et de développer les partenariats avec les collectivités. On a eu un vrai retour en force, je dirais, sur l'année 2018 au niveau des réseaux d'initiatives publiques, des partenariats qu'on a pu nouer avec les collectivités. On a signé les DSP du Gard, les DSP de la Corse, des Pyrénées-Atlantiques, de l'agglomération de La Rochelle, mais on s'est aussi lancé dans des discussions massives avec les collectivités autour des AMEL, avec plusieurs contractualisations en cours de finalisation sur le Grand Sud, sur l'Eure-et-Loire, pour étendre cette stratégie de déploiement, de développement des infrastructures sur le territoire national. Le groupe s'est toujours engagé et a toujours affiché sa volonté d'étendre le très haut débit sur l'ensemble du territoire national. C'est une volonté qu'on partage avec le gouvernement, c'est une volonté qu'on partage avec les collectivités locales. L'ambition, elle est très claire, couvrir le maximum de territoire en très haut débit, que ce soit du fixe ou du mobile. Donc on est dans cette continuité, on est dans cette volonté d'avancer. Et bien évidemment, sur les réseaux qui ne sont pas des réseaux SFR, on est présent et on est d'autant plus présent. Et on a des forces commerciales qui se démènent pour tous les jours pour gagner de nouveaux abonnés. Il y a la bataille de gagner des projets de délégation de services publics, de gagner de nouvelles infrastructures. Mais derrière, il y a aussi le combat qu'on mène sur le domaine du grand public et de l'entreprise pour gagner des parts de marché. Et ça, c'est le quotidien du groupe de manière générale.
Merci Lionel Recorbet. J'ai une question pour vous deux. Effectivement, vous êtes quand même les locomotives de ce déploiement. Il y avait des fortes attentes. Pendant plusieurs années, voilà, vous nous avez expliqué que vous priorisiez d'abord vos propres réseaux. Maintenant, vous arrivez. Est-ce qu'il faut entendre que, finalement, aujourd'hui, les RIP sont pour vous des espaces de rentabilité ? Est-ce que c'est clairement ça aussi ? Vous avez des dynamiques économiques propres, c'est-à-dire aujourd'hui, le client RIP, finalement, qui passe du bas débit au très haut débit avec vous, finalement, il va enclencher plus facilement sur un abonnement fibre que ceux que vous rencontrez peut-être en ZTD, qui déjà sur la DSL ont 8 mégas, et puis qui peuvent encore attendre. Est-ce qu'il y a aussi cette prise de conscience-là ? Est-ce que ça a guidé une part de votre réflexion ?
Vous savez que globalement, la part de marché du FAI Orange sur ces zones RIP est de l'ordre de 50%. Donc forcément, c'est une zone qui nous intéresse. Vous pourrez bien l'imaginer. Je pense que l'appétence, elle existe partout.
Elle existe partout.
Elle existe partout. Alors évidemment, quand il y a une offre sur l'ADSL avec un ADSL à 30 mégas et que de l'autre côté vous avez un ADSL qui va être à 2-3 mégas, forcément l'appétence pour la fibre est tout de suite plus présente, c'est sûr. On a des zones sur lesquelles l'appétence est moins présente, on peut l'imaginer tout à fait dans des zones très denses et sur lesquelles l'ADSL est de très bonne qualité, etc. Donc oui, évidemment. Et en général, les projets de réseaux d'initiative publique restent malgré tout des projets politiques, politiques d'aménagement, j'entends, et ça veut dire bien évidemment que les zones qui ont été privilégiées, priorisées par les politiques, c'est évidemment des zones sur lesquelles il y avait une forte appétence parce qu'il y avait notamment des débits qui étaient moindres. Donc forcément, les premières prises qui sortent sur les réseaux d'initiative publique, on voit un intérêt qui est majeur de la part des clients et des populations qui sont couvertes. Donc ça c'est sûr. L'équilibre sur économique du FAI, quel qu'il soit, il se fait par rapport à sa capacité de distribution, à sa part de marché, et puis surtout au tarif qui est pratiqué par les RIP. Donc aujourd'hui, ces tarifs, ils sont somme toute assez encadrés, et ce qui fait que à la fois l'offre elle-même, la technicité, l'ensemble des normes, etc., fait que normalement un FAI peut venir. Il y a plusieurs modèles, on le sait, et un modèle activé, un modèle de cofinancement, un modèle de location, tout ça en fonction des FAI. Nous, pour notre part, à partir du moment où le réseau est construit selon les modalités au goût des OSEN, comme le répliquait tout à l'heure Monsieur Collin, eh bien à partir de là, si ça a bon goût, ben on vient, c'est sûr. Donc voilà. Et donc ce qui fait que oui, on est tout à fait à l'aise pour venir sur ces réseaux, bien évidemment. Sur la partie déploiement, je voudrais juste rappeler, puisque en analogie à ce que disait Lionel Recorbet, sur le déploiement du très haut débit sur la France, pour rappel, Orange, ça représente aujourd'hui, on va franchir notre 10 millionième prise sur le mois de mars. Donc ça montre bien que, voilà, on y est, je vous l'ai dit, une vraie force de frappe, de déploiement, etc. Mais on a 30% de part de marché sur les RIP. Sur les zones qui ne sont hors zone AMI, on va dire, que ce soit à travers les AMEL, à travers toutes les opérations fonds propres qu'on peut avoir, des extensions de zone AMI, etc. On a eu, sur ces zones-là, on a le territoire de Belfort, les Hautes-Pyrénées, l'Orne, une partie de l'Orne aussi qui nous a demandé de déployer en propre, la Haute-Vienne, Lot-et-Garonne, par exemple, et puis une autre opération en partenariat. Donc, ces projets-là nous intéressent, évidemment. On a, en plus de ça, ce sont des projets qui sont intéressants parce qu'ils viennent dans la complémentarité de ce qui est fait sur 2019-2020, sachant que sur 2019-2020, les capacités de production françaises sont ce qu'elles sont. Et donc, il y a sans doute un peu de surbooking, mais en tout état de cause, il faut aussi donner de la visibilité à nos partenaires qui font les déploiements sur les années d'après. On ne peut pas demander à une industrie d'accélérer et stopper en 2021. C'est pas possible. Ça veut dire que sinon, cette industrie va vraiment se casser la gueule. Et comme on a en face de nous des gens qui sont raisonnables, eh bien, ils organisent les choses pour qu'il y ait une diminution petit à petit par rapport au programme de production. Et c'est hyper important. Donc, on a, nous, avoir des déploiements qui vont continuer, notamment sur les zones dites AMEL, et puis sur les zones RIP qui vont continuer sur 2021, 2022, 2023, c'est très important pour arriver à une stabilisation de ces équipes. Sinon, c'est le fiasco assuré, et de toute façon, les entreprises ne le feront pas. Voilà.
Reçu. Lionel, donc cette question de la rentabilité des espaces RIP.
Je pense que la notion de rentabilité, elle existe, mm-hmm. mais ce n'est pas la notion fondamentale. Aujourd'hui, on n'a pas des sous-territoires ou des sur-territoires pour SFR. Un abonné qui soit dans une zone RIP de Covage, d'Altitude ou d'Action, ou même d'Orange, ou qui soit sur une zone RIP de SFR, il a droit au même service. Et ce qu'attend un abonné qui soit... en ville, qu'il soit à la campagne, qu'il soit dans un RIP, qu'il soit dans une zone AMI, c'est d'avoir le même service. Et donc c'est bien dans cette stratégie-là que s'intègre la démarche de SFR sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques. C'est bien d'apporter le même service à l'ensemble de nos abonnés, la même qualité de service. Effectivement, il faut que le réseau d'initiatives publiques réponde aux critères de qualité de service des FAI, des grands FAI. Mais voilà, on va recréer une fracture numérique si on n'est pas dans cette logique-là. Et notre point de vue est vraiment de se positionner en disant que l'ensemble des abonnés, où qu'ils soient sur le territoire national, doivent avoir le même service. Après, sur les réseaux d'initiatives publiques que l'on opère, on fait en sorte d'ouvrir un maximum ces réseaux à l'ensemble des opérateurs. Aujourd'hui, on a déployé plus de 350 000 prises sur l'ensemble des réseaux SFR Collectivité et désormais SFR FTTH, les 13 délégations de services publics. On a plus de 120 000 clients actifs sur ces réseaux. Donc plus de 120 000 clients qui désormais ont accès aux offres des opérateurs. Hein. Il y a plusieurs opérateurs qui sont déjà présents sur ces réseaux d'initiative publique et Orange. Et d'ailleurs présent sur la quasi-totalité des réseaux d'initiatives publiques du groupe Altice. C'est pour ça que je disais à Cyril, est-ce que c'est pas le fait que SFR se lance sur les autres réseaux d'initiatives publiques qui, à un moment donné,
a créé un appel d'air.
A créé cet appel d'air. Mais c'est aussi des réseaux qui sont ouverts à l'ensemble des acteurs. Et on vient d'annoncer aujourd'hui l'arrivée de Vitis, donc qui est une filiale de la Caisse des dépôts, sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques du groupe Altice et de SFR FTTH. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir ce nouvel acteur sur l'ensemble de nos réseaux. On va ouvrir avec Vitis, dès cet été, le réseau d'initiatives publiques de l'Isère, pour qu'ils aient et qu'ils commercialisent leurs offres commerciales vidéo futures. Et donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. L'enjeu pour nous, c'est vraiment d'apporter à l'ensemble de la population un service équivalent à celui qu'ils peuvent retrouver sur les zones AMI et sur la zone très dense.
Merci Lionel. Et au même prix. Et bon, effectivement, si ça a un prix, ça a aussi un coût. Parce qu'effectivement, vous avez demandé à Blandine, enfin, à Covage, donc à Blandine d'Allon-Virondeau, voilà, un certain nombre de travaux de réingénierie de ces réseaux. C'est le cas dans le Calvados, c'est le cas à Cœur-Côte-Fleury. Ça a coûté combien, en gros, de faire cette réingénierie et ça portait sur quoi, concrètement, sans rentrer dans les détails techniques, mais pourquoi cette réingénierie?
Alors pourquoi cette réingénierie? Je crois qu'effectivement, Olivier Collin l'a expliqué tout à l'heure, on avait des réseaux, et notamment chez Covage, les anciens réseaux Tutor,
oui.
Qui n'étaient pas construits dans les standards qui aujourd'hui sont admis et reconnus, et pour lesquels, effectivement, on peut accueillir des OSEN. Donc il a fallu, en parallèle de toutes nos opérations de déploiement, hein, puisqu'on a quand même déployé 138 000 prises l'an dernier, ce qui est deux fois plus que l'année d'avant, et on prévoit d'en déployer 328 000 l'année
donc
prochaine.
Encore deux fois.
Donc
d'accord.
En parallèle de ces opérations de déploiement et de construction pure, on a effectivement des opérations de réingénierie qui sont relativement importantes, coûteuses et qui mobilisent des équipes. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur Cœur Fibre, donc Côte-Fleury, c'est 24 000 prises qui sont en cours de réingénierie. Et pour parler du Calvados, c'est 70 000 prises qui sont en cours de réingénierie. Donc ces opérations, elles se font effectivement en parallèle des opérations de déploiement et de construction par ailleurs. Donc effectivement, ça nécessite des équipes qui sont organisées, des process industriels qui sont évidemment nécessaires aujourd'hui, et beaucoup, beaucoup d'énergie et de motivation.
Et ces règles d'ingénierie, elles datent de quand? Elles ont été stabilisées quand, les règles d'ingénierie qui aujourd'hui font l'unanimité dans la communauté des opérateurs?
Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question. Peut-être que Régis pourrait...
Mais ce qui...
Ce qui... C'est, ouais. Donc mon voisin de droite me souffle que c'est depuis quasi toujours. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans notre...
Vous pouvez, si quelqu'un a la réponse ou un bout de la réponse, n'hésitez pas.
Guillaume. Je crois qu'il faut quand même se souvenir que lorsqu'on lance l'opération Calvados en 2012, quand on fait notre délégation de service public, il y a des critères pour ce que l'on appelle les rives de deuxième génération.
En 2012, vous avez des RIP de deuxième génération, c'est-à-dire que on construit le Black Down, c'est ce que vous aviez vu sur la carte tout à l'heure, et les 74 postes de mutualisation. Et nous avons nos SRO qui sont enfouis. Et là, par contre, il y a une nouvelle donne qui tombe en 2014, c'est-à-dire 2 ans après l'accord que nous avions reçu, les grands opérateurs nationaux veulent être, tout comme pour la téléphonie, avoir des armoires. Et à partir de là, eh ben, si vous ne mettez pas les armoires, vous n'aurez jamais les grands opérateurs. C'est tout simple. Parce que ce que nous avions construit, ça fonctionnait. Vous inquiétez pas, on avait déjà toute notre infrastructure départementale qui était dessus. Et ça fonctionnait superbement bien.
C'est vrai que pour compléter ce que disait Olivier Collin, on a des opérateurs qui commercialisaient sur le Calvados, effectivement. Maintenant, effectivement, il faut comprendre aussi que quand on travaille avec des opérateurs d'envergure nationale, il faut forcément avoir des standards et des process qui soient industrialisés et qui soient les mêmes partout, et ce qui est compréhensible.
Donc aujourd'hui, cette réingénierie, pour prendre l'exemple de Cœur-Côte-Fleury, ce sera fini quand ?
Alors l'exemple de Cœur-Côte-Fleury, ça sera terminé en 2020.
D'accord.
Voilà, donc les calendriers, les équipes sont mobilisées sur ce sujet.
Et à l'échelle du Calvados ?
Et à l'échelle du Calvados, on est sur à peu près les mêmes...
Sur les mêmes temporalités. Ouais. Super. Vous avez parlé d'opérateurs de communication d'envergure nationale. En fait, j'ai l'impression que, contrairement au mouvement des cabinets en consulting qu'on appelait les Big Five, qui sont devenus les Big Four, j'ai l'impression autour de cette table, ça a plutôt tendance à grossir, parce qu'on a Covage, on peut considérer, même s'il n'est pas fournisseur d'accès, est un opérateur d'envergure nationale. Ce qui est le cas aussi d'Altitude
Infrastructure. Pardon, on tient à notre ADN.
Notre. Voilà. Mais malgré tout, voilà, on a cette filière-là, depuis qu'elle est née, donc en 2011, hein, création de la FIRIB, devenue depuis Infranum, on voit qu'il y a des entreprises comme ça qui sont opérateurs de réseaux neutres. C'est le cas d'Altitude. Et j'aimerais faire un point sur le développement d'Altitude. On a des poids lourds comme ça qui se sont créés et qu'on est ravis, année après année, de voir se développer.
Merci pour le thème de poids lourds, c'est sympa. Alors, déjà en introduction... par rapport aux annonces qui ont été faites d'Orange, d'SFR également, mais vous savez également que Bouygues et Free arrivent sur les réseaux d'initiative publique. En tant que vice-président d'Infranum, j'ai envie de dire, j'ai envie un peu de tous nous féliciter, tous les acteurs de RIP, depuis le début de la création des réseaux d'initiative publique, que ce soit les acteurs privés, évidemment toutes les collectivités, bureaux d'études et autres, on a réussi notre pari. On s'est accroché, on avait une vision, et aujourd'hui... tout montre qu'on a eu raison d'avoir cette vision. Voilà. Donc, après, quitte l'œuf ou de la poule, entre les RIP fait venir les OCN ou les OCN qui font venir les RIP, j'en sais rien, mais l'essentiel...
compte, c'est le résultat.
Voilà, l'essentiel, c'est que ça avance. Alors, pour ce qui est d'Altitude, on a démarré notre aventure dans la fibre en 2011. On a 3 grands métiers. Un métier qui investit dans les réseaux d'initiative publique. Donc aujourd'hui, le montant de fonds propres est colossal en termes d'investissement sur tous ces réseaux. Une entité qui gère l'exploitation du réseau et une entité qui gère la construction. Et on a toujours eu... donc on n'était pas totalement neutre par rapport à Covage, parce que nous avons toujours eu le FAI WeBox au sein de notre structure. Pour animer le marché et bien nous en a pris, pour pas revenir sur le sujet dont je parlais il y a une minute. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3 millions de prises sous contrat, alors la majorité en concession, une partie en affermage et également, on est en train de finaliser des accords, une partie qui sera également en AMEL. Et on a, à l'heure actuelle, 4 gros enjeux. Le premier, mais j'y reviendrai après, le déploiement du réseau. comment structurer la sous-traitance, etc., et assurer les cadences de déploiement. Un enjeu au terme de l'exploitation, parce que c'est pas le tout de penser à déployer les réseaux, mais il faut aussi se projeter dans l'exploitation derrière. Et il y aura, quand Cyril parlait de donner de la visibilité également au marché, il y a l'énorme marché du raccordement client qui viendra derrière et qui pèse, de mon point de vue, quasi aussi lourd que le premier marché du déploiement du réseau. On a un enjeu autour du recrutement. Alors 2018 a été une très très grosse année. On a recruté un peu plus de 200 personnes sur l'année 2018.
Au sein de la structure
Altitude Infrastructure, enfin au sens large, dans toutes les entités. Je tiens à le dire, parce que la semaine dernière, c'était la journée de la femme, donc 43% de femmes dans les recrutements de l'année 2018, ce qui est une bonne chose. Et ce qui m'a également fait sourire, c'est que la majeure partie des femmes qui ont été embauchées l'année dernière, c'était dans la filiale construction, ce qui paraît pas forcément... inné au démarrage. Évident, ouais. Enfin, en tout cas, nous, on est ravis de cette mixité. Et enfin, notre quatrième gros enjeu, c'est l'enjeu de la commercialisation, parce que comme vous l'avez indiqué, au final, nous, on veut des end-users, des clients finaux heureux, donc que ce soit dans la gamme grand public ou la gamme professionnelle. Donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà, j'ai envie de dire, des commandes avec les quatre opérateurs. Sur le fait que ça s'étende de façon nationale, ben maintenant il faut que les opérateurs avancent, déploient l'intégralité des NRO, déploient leur réseau de collecte, etc. Et dans l'entre-deux, ben, on continue à avoir les opérateurs qu'on connaît bien. Tu as cité Vitis, Webox, Coriolis, Nornet, Ozone ici puisqu'on est en Normandie, qui continuent à pousser, qui continuent à grappiller des parts de marché, puis à faire valoir leur marque. Et je pense que c'est pas parce que les grands opérateurs vont arriver qu'ils vont forcément se faire damer le pion. À partir du moment où un client est chez un FAI qu'il est plutôt content, il n'y a pas de raison qu'il bouge naturellement. En tout cas, nous, sur cette partie-là, on est vraiment ravis d'accueillir tous les OSEN avec lesquels ça se passe plutôt bien, que ce soit contractuellement, que ce soit dans les contraintes techniques que l'on peut avoir. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont des choses qui avancent et... ce qui est assez plaisant en plus, c'est qu'on se rend compte qu'au-delà d'aller récupérer de nouveaux clients, à partir du moment où un OSEN arrive sur une plaque, il a aussi une logique de migration de masse pour migrer des abonnés qui sont aujourd'hui sur le DSL et se dire, à partir du moment où j'arrive sur une plaque, il n'y a pas de logique à vouloir faire perdurer le service DSL, donc autant directement basculer sur le service fibre optique.
Merci beaucoup. David Elfassi, on va revenir vers vous tout à l'heure avec une question globale sur sur les AMEL et la manière dont les acteurs se positionnent sur les AMEL. Mais juste avant, Yvon Noël, donc la région Normandie, je disais tout ça n'a pas de prix mais ça a un coût, elle a remis au pot pour harmoniser les RIP au niveau régional. Il y a eu un investissement qui a été fait. Hervé Morin a annoncé que son objectif était 100% de très haut débit pour les Normands à l'horizon 2025. Voilà, quel est aujourd'hui le rôle qu'a décidé de jouer la région sur ce volet-là?
Merci Sébastien, bonjour à tout le monde. Je vais répondre à ta question, mais au départ, je vais m'employer à ne pas répondre à ta question.
Je te remercie.
Parce que je voudrais d'abord excuser l'absence d'Hervé Morin et puis de Françoise Guégot qui, au dernier moment, n'a pas pu se libérer. Et donc, je vous présente donc les excuses de ces deux élus, de grands élus pour le numérique. Je voudrais commencer mon propos avec des remerciements, en fait, qui vont s'adresser aux entreprises de l'écosystème numérique normand. Parce que je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, sans les entreprises et leur investissement et leur ancrage territorial, il ne se passerait rien. Alors je pense que si j'étais dans une autre région, directeur d'aménagement numérique d'une autre région, je pourrais avoir le même propos, mais je ne citerais pas forcément les mêmes entreprises, forcément. Mais je pense que c'est l'occasion ici de rendre hommage à ces entreprises. Alors finalement, quand on regarde l'écosystème, alors je vais recentrer quand même sur la question de la fibre et du très haut débit, mais en fait finalement... Tous les métiers, toute la filière est concernée finalement par mes remerciements. Je vais commencer par Acom, parce que c'est une grande entreprise. Alors elle n'est plus, paraît-il, la plus grande Scope de France, puisque Scopelec aurait dépassé. Après, voilà, bon, en tout cas, très bien. Et en tout cas, à Côme, c'est quand même la fibre, c'est la production, et donc c'est ancré dans le territoire. Alors, tout à l'heure, on a présenté Altitude Infrastructure, là, donc David à mes côtés, mais quand même, c'est une entreprise normande, voilà, à le signaler, c'est important. Et en plus, avec un partenariat ancien, notamment avec David, à l'époque où, même avant 2012, hein, même avant 2011, la création d'Altitude Infrastructure, puisque donc on avait déjà des contrats, la région, avec Altitude, hein, pour fournir l'Internet à nos lycées, à nos collèges, notamment, etc. Et donc, il y a plein de choses qui ont été faites. Une entreprise qui est toute naissante, hein, Innovance, quand même, qui est née, quand même aussi en Normandie, dans la Manche, et qui a posé d'ailleurs, je me souviens, un peu un pavé dans la mare dès 2014 aux EGRIP, c'est daté, hein, ça fait 5 ans, qui a fait que du coup, que le directeur de l'agence du numérique de l'époque a quasiment, entre guillemets, recruté pour faire une étude sur ces questions donc à Paris pendant 3 mois, hein, on avait quand même posé cette question finalement de la ressource qui était et avec d'autres acteurs, hein, Firip maintenant Infranum, Objectif Fibre, le Credo qui est présent aussi dans la salle. Donc franchement, avec des ancrages normands très très importants. J'ai envie de dire que alors même si Orange est forcément un opérateur national, n'empêche l'ancrage territorial d'Orange avec Orange R&D, c'est aussi un gros partenariat. D'ailleurs, ce qui est intéressant, alors je voudrais rebondir en fait sur ce qu'a dit Cyril, les grandes annonces d'Orange, etc. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un petit peu l'âge et donc de voir avec une perspective historique ce qui s'est passé. Parce que Orange finit toujours par prendre les bonnes décisions au bout d'un certain temps. C'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est avec beaucoup d'amitié que je dis ça avec Orange parce que moi, je me souviens qu'au début de l'Internet, enfin, quand moi, je faisais mes premières connexions, vous savez, que le truc qui fait dis-donc, voilà. Eh bien, 14K, donc peut-être même un peu moins. France Télécom à l'époque, l'internet c'était pas forcément son truc. Et moi je travaillais déjà avec certains FAI comme au Club Internet, des gens comme ça, avant que Wanadu n'existe. Enfin, donc la décision a été prise quand même un petit peu tardivement. Et notamment moi qui ai géré aussi des réseaux de télécommunications pour l'enseignement supérieur et la recherche, on s'est battu aussi pour que l'abandon d'ATM pour l'internet. Après. L'utilisation et la promotion d'IPv6 par exemple, alors pour ceux qui connaissent un petit peu ces choses-là, c'est important. Et donc et d'ailleurs singulièrement, c'est grâce souvent d'ailleurs France Télécom ou Orange pourrait mieux ferait bien aussi de bien écouter ces laboratoires de R&D qui eux ont l'avance mais pas forcément l'entreprise. Donc comme quoi il y a un petit peu de latence, c'est un problème de qualité de service, la latence, vous savez. Et donc voilà. Alors après, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a d'autres entreprises. Par exemple, j'observe Covage qui arrive là, maintenant sur la Normandie, qui est bien présent, à des ancrages territoriaux. C'est-à-dire, en fait, même dans ces recrutements RH, c'est des gens qu'on connaît en Normandie, qui sont là. Enfin, je trouve ça intéressant. Enfin, voilà. On a des installateurs télécoms. J'ai cité Scopelec, là, qui a des origines à Flers également. Donc c'est important de le voir. On a Sogetrel qui rachète des entreprises normandes aussi, qui est installateur télécom. Je parlais d'IPv6, on a beaucoup travaillé avec Axience. Pour le câblage des lycées, historiquement, etc., on a travaillé avec l'ASPI. Et j'étais avec eux hier, d'ailleurs, sur les questions de Smart City. Enfin, il y a vraiment un travail énormément de nos entreprises en Normandie. Et puis, alors, si vous voulez venir nous voir tout à l'heure, un petit peu de pub, là, on a un masque de réalité virtuelle. Et c'est une entreprise d'une start-up normande hein, qui a fait l'application qui permet en fait, de promouvoir les métiers de la fibre. Ça, c'est important. Donc, si vous voulez, il y a mon collègue Michel qui est là, et moi-même, je pourrais vous aider à faire ce... Il a été présenté au forum hier.
Absolument. Vous pourrez dérouler votre premier kilomètre de fibre.
Donc voilà. Après, l'écosystème numérique, et si j'oublie des entreprises, je suis vraiment désolé parce que je ne peux pas forcément toutes les citer. Forcément, je vais en oublier. Mais en tout cas, on a aussi des startups sur le big data aujourd'hui. Parce que ça, c'est dans notre stratégie, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein, des Soyuz, des Sagi, des Momentech. Enfin, c'est des entreprises que vous ne connaissez peut-être pas au niveau national, mais je peux vous dire qu'en tout cas, elles sont bien présentes en Normandie, c'est l'écosystème. Donc voilà, les remerciements vont à toutes ces entreprises-là parce que sans elles, l'écosystème numérique normand ne fonctionnerait pas. Voilà. La stratégie de la région, et maintenant j'ai commencé à répondre à ta question,
merci.
C'est bien, après cette longue introduction, mais franchement je pense que c'était important qu'on puisse aussi dire ça de la Normandie. La stratégie de la Normandie est, en matière de développement numérique, d'aménagement numérique, c'est de travailler sur ses ressources d'un côté et travailler sur la transformation numérique de l'autre. Et dans les ressources, on a le THD, l'infrastructure, la question aussi du stockage des données, du cloud, des data centers, la question des lieux, des tiers-lieux, et la question de l'accompagnement humain avec la médiation numérique. Ça, donc la ressource, elle part de la fibre, de l'infrastructure jusqu'à l'être humain. Ça, c'est important de voir cette vision qui nous semble importante pour nous, pour dire que la ressource numérique, finalement, ça convoque un petit peu tous les étages. La transformation numérique, on va parler éventuellement des compétences de la collectivité. Monsieur Collin, tout à l'heure, vous avez parlé des blocs d'écoles, etc., scolaires, raccordés à la fibre. Bon, bah, typiquement, la compétence de la région, c'est aussi d'avoir fibré l'ensemble de ses lycées. Aujourd'hui, c'est fait. Donc c'est quand même intéressant. Et ça, c'est la transformation numérique de l'éducation, mais aussi on aide pour la santé, on aide pour l'enseignement supérieur et recherche, je l'ai cité tout à l'heure, avec des espaces innovants. Donc c'est un peu tout ça. Et aujourd'hui, on est plutôt sur la donnée, parce que c'est ça qui va aussi être... Parce que mettre de la fibre, c'est bien, comme on dit souvent, c'est bien parce qu'après, il y a des usages dessus. Et aujourd'hui, la donnée est importante. Et comme je dis toujours, si la donnée, en plus, devient ouverte, on abaisse la valeur sur la donnée intrinsèquement pour décaler la valeur sur le service. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc créer maintenant l'écosystème numérique, ça va être aussi l'écosystème de la donnée, et donc sur l'aspect serviciel qui est absolument important. Alors on parle de territoire connecté, on peut parler de territoire serviciel, enfin c'est ça dans la stratégie. Alors maintenant, si je reviens sur la fibre, dans Normandie, l'état des lieux aujourd'hui, c'est bon, en gros, toutes zones confondues, hein, c'est entre 1,5 million et 1,8 million de prises à faire. Hein, donc c'est quand même assez...
À faire,
oui. Mm-hmm. Au total. Hein, donc c'est quand même assez conséquent. On est plutôt, la Normandie actuellement, en matière d'indicateurs, on est plutôt dans le peloton du milieu, hein, en termes d'avancement. Alors après, si on retire la région parisienne... Et puis certaines parties, enfin, on va dire en France métropolitaine, du coup on est 5-6e en gros, voilà. Mais donc on est dans le bon peloton, tout va bien. Et puis si on se projette sur les statistiques de l'ARCEP qui disent, je pense que dans le dernier trimestre, peut-être 2018, ou 1 million de prises de construite. Donc si on fait une projection, ça veut dire qu'il faudrait qu'en Normandie, on en ait 200 000 par an qui soient construites, en gros. Eh bien, quand je fais le calcul, c'est à peu près ce qui va se produire, grâce notamment aux chiffres qu'annonçaient par M. Collin tout à l'heure, mais pour d'autres, en Seine-Maritime, en Eure, dans la Manche, qui reprend de l'accélération, après un petit temps compliqué, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, d'une certaine manière, le problème aussi, c'est, et ça intéresse l'agence du numérique, c'est que à un moment donné, pour ceux qui sont partis très tôt, je pense Calvados et Manche en particulier, ils ont essuyé les plâtres. Franchement, ils ont essuyé les plâtres. Et même si, objectivement, quelquefois, il y a des choses qui sont discutables, pas forcément contestables, mais en tout cas discutables, n'empêche que ça a quand même énormément ralenti certains projets. Moi, je le vois en tant que financeur. Quand les factures n'arrivent pas, ça veut dire que les travaux sont en retard. Mmh. C'est très, très clair. Enfin, c'est un indicateur simple. Et l'avantage est efficace. C'est très, très lisible pour les élus. Et donc, ça renvoie d'ailleurs à des questions de gouvernance, qui est un peu le sujet aussi, une nouvelle gouvernance aujourd'hui, en tout cas au niveau local. Nous, on a un travail vraiment point à point avec chaque maître d'ouvrage, pour comprendre comment ça fonctionne et s'adapter finalement à chaque réseau. Parce que on a 5 départements, j'irais même presque... j'ai 8 mètres d'ouvrage, parce que malgré le fait que j'ai que 5 départements, parce que Cœur-Côte-Fleury est donc un cas singulier, hein, qui a démarré très tôt, qu'on a accompagné très tôt, avec des fonds européens également. Mais on a aussi les zones frontalières. Donc on a Somme Numérique qui vient câbler la Normandie. On a Eure-et-Loir numérique qui lancé. Donc, en fait, finalement, on a au total 8 mètres d'ouvrage. Donc, c'est intéressant. Et donc, on a une variabilité dans les approches de maîtrise d'ouvrage qui est absolument extraordinaire. Et y compris à l'intérieur même d'un seul projet de maîtrise d'ouvrage, on peut avoir une variabilité de passer de la fermage à la concession. Enfin voilà. Donc, enfin, on a des histoires et c'est tout à fait intéressant. Et ça, dans cette gouvernance, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et on traite pas un maître d'ouvrage exactement de la même façon. Par contre, on a un cahier des charges important sur le fait qu'il faut fibrer effectivement les zones d'activité, il faut fibrer les lieux scolaires, il faut fibrer les lieux publics, et ça, c'est dans notre cahier des charges. Et puis, on a abandonné la montée en débit, le financer la montée en débit, déjà depuis un certain temps, depuis maintenant plus de 2 ans. On dit maintenant, les coûts partis, bah, très bien, mais maintenant, c'est terminé, ces fibres d'abord. Donc, voilà. Alors, on attendrait de l'agence, effectivement, la réouverture du guichet. Parce que, franchement, on l'attend, parce qu'il y a encore des projets qui ne sont pas totalement financés en Normandie. Et des phases 2 ou des phases 3, même si elles ont été concentrées. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a même besoin aussi que les fonds européens 2021-27 aussi puissent permettre de réouvrir les choses. Parce que financièrement, c'est des points importants. La région Normandie finira probablement, fonds fédères compris, à 240 ou 250 millions d'euros. Enfin, c'est quand même, ça pèse.
Oui, c'est pas rien.
C'est pas rien. C'est pas rien. Donc voilà, c'est ces éléments-là que je voulais souligner et qui répondent peut-être à ta question.
Oui, et je t'en remercie.
Ah ben, j'en suis très ravi. Non, parce que entre deux, je l'avais un petit peu oublié.
Il est midi, on déjeune à 13h30, hein, donc c'est pour ça qu'on a pris les pains au chocolat et les croissants avant. Il nous reste 10 minutes pour parler des AMEL, du New Deal et de cette fameuse agence de cohésion des territoires, qui devait être préfigurée, en mai dernier, le rapport Morvan. On en est où, Régis, de cette agence de cohésion des territoires? Est-ce que vous avez de l'info?
J'ai pas d'infos privilégiées. Je peux simplement dire que l'Assemblée nationale, après le Sénat en novembre, a voté en début de semaine la création de cette agence, et que même s'il y a quelques différences relativement limitées entre les textes votés respectivement par chacune des assemblées, les deux assemblées ont bien voté l'intégration de l'agence du numérique au sein de l'agence de la cohésion des territoires.
D'accord.
Ce qui était, je dirais, depuis le début dans le projet.
Dans le projet, oui.
Absolument. Donc cette intégration doit se faire au plus tard, au 1er janvier 2020, et il nous est demandé de travailler en mode, préfigurant cette organisation.
D'accord.
Dès que possible.
Avec une mission qui était affichée au départ, qui était de porter de l'ingénierie d'État vers les territoires. Ça prendrait quelle forme? On le sait un peu mieux ou pas?
Alors, en fait, il y a deux composantes. Hein, la première, c'est que l'ANCT, elle porte des programmes. Et donc, à ce titre, elle porte les deux programmes, France Mobile et France THD, qui existent. Et donc, il est tout à fait naturel et logique qu'on regagne. Et effectivement, le deuxième volet, c'est quelle ingénierie du numérique sur d'autres sujets? 5G, l'Internet des objets, des choses comme ça. Donc là, il faut qu'on se dote de compétences, parce que ces compétences, on ne les a pas, de manière à, effectivement, pouvoir apporter du conseil et peut-être préfigurer d'autres programmes pour les années 2020 et après. Ce travail, ce chantier, il reste à faire. C'est jamais tout à fait banal que de quitter une structure, d'en rejoindre une autre qui par ailleurs se crée en même temps, où on va rejoindre et travailler avec des structures qu'on connaît un peu mais pas forcément encore très bien. Voilà. Et donc il faut faire ça progressivement de manière à ce que la cohésion de l'ensemble soit aussi rapidement que possible satisfaisante. Et que surtout, la dynamique des programmes en cours ne soit pas affectée. Parce que pendant les travaux, les ventes continuent.
C'est ça. Donc, oui, à demi-mot, on peut entendre que finalement, la réouverture du guichet, c'est l'agence du numérique, enfin l'agence de cohésion nationale des territoires qui aura à le faire ou pas. quelque part, puisqu'on a une fermeture officielle jusqu'à la fin 2019. Cette agence secrète, c'est elle qui va arbitrer ça à un moment donné. On peut l'imaginer. En tout cas, ce ministère-là. Les zones AMEL, qui est dessus rapidement qui est dessus et pourquoi tout le monde est dessus? Comment ça se passe? Un premier témoignage sur les zones AMEL, parce qu'il y a eu pas mal de questionnements, d'interrogations. David?
Alors, chez Covage, effectivement, on a deux départements qui se sont positionnés en faveur d'une AMEL avec nous. Donc il reste ensuite des étapes à franchir, l'avis de l'ARCEP, et puis après le décret, bien sûr. Donc ces étapes, la cible, c'est courant avril 2019.
D'accord. On redonne le principe des AMEL qui le fait?
Ouais, c'est assez simple. L'Agence du numérique a explicité le fait qu'avant... Toute réouverture du guichet, on va dire ça comme ça, les collectivités devaient, globalement, si elles comptaient faire un RIP, eh bien, elles devaient quand même consulter si jamais il n'y avait pas des opérateurs privés qui souhaitaient déployer en propre, avec donc leurs propres investissements, sans recours à la subvention, les zones en question. Et puis à partir de là, les collectivités étaient souveraines et choisissaient soit de faire appel à cet opérateur privé, soit finalement relancer un RIP parce que les conditions n'étaient pas satisfaisantes.
D'accord.
Globalement, c'est ça. Si on vulgarise les règles, je ne dois pas me tromper très fort, Régis, sur les règles. Nous, on s'est positionné comment par rapport à ça ? On essaye d'être le plus cohérent possible par rapport à ce qu'on souhaite faire. On a regardé les zones sur lesquelles il y avait une grande cohérence sur la partie complémentarité par rapport à ce que l'on faisait déjà, donc complémentarité à la zone AMI par exemple, sur lesquelles on était en train d'investir et sur lesquelles on avait les capacités à la fois économiques et opérationnelles de réaliser ces opérations, que ce soit d'un point de vue
qui calendrier, consiste etc. d'une certaine manière dans une petite extension partielle.
Oui, une extension de on peut dire comme ça, une extension de la zone AMI. Donc le fait est que il n'est pas ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout regardé ça, et ce qui nous a amené à nous positionner plutôt sur des AMEL qui étaient en complémentarité des zones RIP phase 1 sur lesquelles Orange avait été sélectionné.
D'accord.
Donc ça nous paraissait très cohérent de le faire de cette manière-là. Deuxième chose, c'est que on a regardé aussi et on s'est positionné sur des projets sur lesquels les collectivités nous avaient expressément appelés. Donc, on ne se serait pas forcément positionné, mais la collectivité est venue nous voir en disant si nous souhaitons véritablement que Orange vienne regarder ce projet-là et se positionne. Donc, et à ce moment-là, on a étudié et on a regardé si, oui ou non, on pouvait... On a vu qu'il y avait des zones qui ont finalisé ou qui sont en cours de finalisation, puisqu'aujourd'hui, il y a toute une instruction, en effet, avec un avis de l'ARCEP qui est attendu. Ce qu'il ne faut pas, c'est que... on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des règles, que ce soit sur la zone très dense, que ce soit sur la zone AMI, que ce soit sur la zone RIP, il y a des règles qui fonctionnent et qui font qu'aujourd'hui, les opérateurs viennent, les FAI nationaux, les FAI... y compris de niche où il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent et il s'agirait que les règles restent à peu près les mêmes, que ce soit sur les technologies, que ce soit sur les conditions d'arrivée, etc. Si ça commence à changer, eh bien ça risque de déstabiliser les choses. Donc notre souhait à nous et la façon dont on répond, c'est pour qu'il y ait une grande homogénéité entre ce qui est fait sur l'ensemble de ces zones et qu'on n'ait pas une sorte de créature bizarre et qui fait que la donne est à nouveau rebattue. Donc ça, c'est important, y compris sur les conditions tarifaires. Donc il faut qu'on ait des tarifs qui soient globalement en harmonie avec ce qui se fait ailleurs, en cohérence avec ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est important. Mais je ne sais pas si l'ARCEP en dira un mot tout à l'heure.
On verra avec Guillaume. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur la mail rapidement?
Non, simplement pour dire que nous avons été également candidats à pas mal de procédures AMEL. Donc, il y a des dossiers qui sont à l'heure actuelle J'ai l'impression que c'était un peu comme avec le guichet. Il y a des dossiers qui sont en instance de décision suite à l'avis de l'ARCEP et pour avoir la notification du Premier ministre. Donc on est vraiment dessus. La seule chose que je peux indiquer sur les AMEL, c'est qu'effectivement, ça part vraiment d'une bonne intention au départ, une bonne initiative pour regarder en quoi le secteur privé peut venir supplanter l'initiative publique qui était prévue au démarrage. Mais encore une fois, pour moi, il y a deux cas. Il y a des cas où rien n'était prévu a priori en tant que tel. Il y avait le choix entre dire est-ce que je fais un RIP ou est-ce que je fais un AMEL. Donc dans ces cas-là, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Par contre, et je dis ça en plus parce que si ça va au bout, on en sera victime, mais à partir du moment où un RIP est lancé, même en retard, même s'il essuie les plâtres, etc., je pense que vouloir tout casser pour repartir vers un AMEL est une grosse erreur. Et je pense que ceux qui font ça, les collectivités et les opérateurs qui sont partis dans cette aventure s'en mordront les doigts, mais on en reparlera.
Donc comprenne qui peut. Monsieur Collin a compris. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose ? Oui, Lionel ?
Juste un dernier point sur les AMEL. Effectivement, pour le groupe, on s'est doté d'une force de frappe SFR-FTTH avec des financements, 3,6 milliards pour financer l'intégralité des investissements sur le territoire. Le groupe répond à l'ensemble des projets qui sont lancés par les collectivités. Le groupe a une vraie volonté d'investir. On a investi 7 milliards d'euros au cours des trois dernières années sur les infrastructures. Notre volonté, c'est de continuer, je vous l'ai dit, à développer les infrastructures sur le territoire national. Ces infrastructures, bien évidemment, en revanche, elles doivent rentrer dans un cadre. Elles doivent rentrer dans un cadre. Et donc, on prend ce cadre-là. Le cadre, c'est le L3313, qui est fixé par l'ARCEF, hein, et qui fait que ces déploiements sont des déploiements engageants. Donc, l'idée, c'est aussi de garantir aux collectivités que les déploiements vont bien avoir lieu. Parce qu'on ne se lance pas dans l'aventure. On ne lance pas une AMEL pour dire on va peut-être déployer de la fibre. Non, on va déployer de la fibre. On va le déployer conformément à un plan de déploiement qui est validé. Et c'est pour ça qu'on attend les arrêtés du régulateur. Parce que ce sont des arrêtés engageants comme les opérateurs privés comme SFR et Orange les ont pris dans la zone AMI. Derrière, il y a potentiellement des pénalités vis-à-vis des acteurs qui prennent ces engagements AML, c'est jusqu'à 3% du chiffre d'affaires.
Donc, oui, quand même.
Pour citer le groupe Altice et SFR en France, on est à 11 milliards de chiffre d'affaires. Donc quand on prend un engagement à hauteur du chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a effectivement une responsabilité dans la mise en œuvre de ces déploiements qui est conséquente. Et encore une fois, la volonté d'avoir des financements privés mobilisés sur les déploiements à très haut débit sont pour nous quelque chose d'important.
Merci. On va être obligé de s'arrêter là. Je vais vous demander d'applaudir nos panélistes à cette table ronde. Régis, vous restez avec moi.